France Culture.
Ça m'est arrivé de pleurer devant des jeux vidéo, ouais. Comme on pleure devant un film, ou je sais pas, devant un opéra, ou devant une pièce de théâtre, ou en lisant un bouquin. Ça vient provoquer des choses chez nous qui sont à la fois de l'ordre du narratif. Voilà, il y a l'histoire qu'on nous raconte, il y a l'empathie qui se crée avec le personnage. Mais il y a une espèce d'empathie un peu étrange qui se fait par le fait qu'on pratique le personnage, en fait. On le fait interagir. Et tout ça nous embarque dans quelque chose qui peut être très intense.
La série musicale Zoé Sfez. Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre de tous les récits, de toutes les épopées. Et quelle épopée ! Une heure de radio sur la musique et en musique. C'est la série musicale, bienvenue. Deuxième épisode aujourd'hui de notre série, quelle série consacrée à l'épopée musicale des jeux vidéo. Après avoir remonté le fil des origines dans notre premier épisode, ce moment où la musique de jeux vidéo bricolait avec trois sons, deux puces et une inventivité folle, inventait des sons qui allaient inspirer au-delà même du chant, on bascule dans une nouvelle ère, celle des années 90, où les consoles gagnent en puissance, où la Super Nintendo ouvre la voie à des orchestrations plus riches et où les compositeurs deviennent enfin des auteurs à part entière. Ils s'appellent, il y a aussi des femmes, on en parlera plus tard, Nobuo Uematsu, Yuzo Koshiro, Akira Yamaoka, des noms qui, sans qu'on le sache à l'époque, allaient changer la manière de vivre les jeux, pas seulement de les entendre, car la technologie, au moment où elle bascule, n'offre pas seulement plus de sons, plus de possibilités techniques. Elle transforme finalement la place du joueur. La musique n'est plus un décor, elle devient une forme de respiration commune et elle accompagne les hésitations, les amplifie les victoires, colore les peurs des joueurs. Elle façonne une intimité nouvelle avec ces mondes de plus en plus riches que l'on traverse. Un thème qui se déploie et soudain on comprend qu'on est impliqué, qu'on est attendu, qu'on fait partie du récit, du lyrisme de Final Fantasy VI aux pulsations électroniques de Rez en 2001 en passant par la douceur inattendue, suspendue dans Donkey Kong Country 2, les angoisses de Silent Hill ou l'ampleur symphonique qui inaugure la première PlayStation. On va tenter de faire le récit de quelque chose finalement assez simple mais de fulgurant à mesure que le jeu vidéo va gagner en profondeur. La musique devient l'un de ses moteurs dramatiques essentiels. C'est elle qui fabrique les émotions, qui récolte ou construit des souvenirs et même presque des élans physiques. Ces instants où on serre la manette un peu plus fort. Une histoire d'émotion, d'ambition et de compositeurs qui cherchent de nouvelles textures, de nouveaux élans, le tout dans une ère encore très forte de contraintes qui va nous mener tout droit à l'ère des superproductions. Évidemment, on ne sera pas exhaustif et on sera comme toujours subjectif dans la série musicale sur France Culture. Yasunori Mitsuda, compositeur japonais emblématique de l'ère des RPG Squaresoft, qui est immensément connu aujourd'hui pour sa capacité à mélanger des influences folkloriques et des textures modernes. C'est vraiment ce qui se passe ici quand on écoute ce morceau qui date de 95. C'est aussi sur une de ses compositions qu'on a ouvert cette émission. On vous a passé Chrono Cross, Cars of Time, qui date de 99. Vous avez entendu en violon Zigane et des motifs un peu japonisants qui renforçaient la dimension émotionnelle des aventures qu'on joue dans ces jeux où on incarne des héros qui voyagent dans le temps ou dans des mondes parallèles pour sauver le monde. Avec ce terme de chrono, s'il est question du temps, on marche sur des cartes, on explore des donjons, on combat des monstres. Les consoles, dans cette ère du 16-32 bits, n'ont pas beaucoup de mémoire, elles ont très peu de sons disponibles, déjà plus évidemment que dans notre premier épisode, mais les compositeurs doivent créer les plus grandes émotions possibles avec seulement quelques instruments synthétiques, et c'est ce que fait avec un immense génie Mitsuda dans par exemple ce Secret of the Forest, une espèce de mélodie ambiante. Il y a quand même une texture japonisante, ça va évidemment être tout l'enjeu hein, dans cette ère de garder une forme d'identité puisque la plupart de ces créateurs sont japonais mais que ces jeux s'exportent partout. Création avec très peu de moyens quand même d'un espace très contemplatif avec une musique qui devient comme une respiration et qui permet aux joueurs de sentir finalement le monde dans lequel il pénètre en dehors même de l'enjeu de l'action. Mitsuda est très influencé, lui, par la musique française. C'est un compositeur qui, comme bien d'autres au Japon, ont beaucoup écouté Ravel, beaucoup écouté Debussy. 95, là on est en 95, dans ce Chrono Trigger, la même année, un autre jeu va lui aussi marquer l'histoire de la musique des jeux vidéo. C'est Donkey Kong Country 2. On va écouter la Sticker Bush Symphonie composée par David Wise. À ce son onirique flottant. On est ici dans un rêve aquatique, dans un niveau où on joue parmi les ronces. Alors c'est un morceau assez symptomatique puisque chaque saut, chaque mouvement va se ressentir musicalement. On est vraiment dans un saut qualitatif de ce que la musique peut provoquer. C'était déjà un jeu qui, dans les deux années précédentes, avait un peu changé la donne. Un jeu qui s'appelle Secret of Mana, qui se jouait évidemment sur la Super Nintendo. Super Nintendo avec ce jeu mythique Secret of Mana, qui avait déjà quelque chose de très novateur, parce que le gameplay était très novateur pour l'époque. Il y avait un système de combat en temps réel avec plusieurs personnages jouables et une musique qui accompagne l'action et le travail assez fou d'un compositeur, Hiroki Kikuta. qui construit une bande originale qui va devenir assez culte puisqu'elle a des textures sonores extrêmement originales qui permettent presque de respirer. On va écouter un morceau qui s'appelle Angel Sphere où en réalité on a l'impression que la Super Nintendo est un instrument à part entière. Angel Sphere avec ses sonorités complètement dingues, on peut le dire, d'orgue, de flûte, une forme de poésie qui nous ramène à l'enfance dans laquelle on a envie de s'immerger. Avec l'arrivée de nouvelles consoles, les choses vont encore évoluer à la fin des années 90 puisque la PlayStation et la Nintendo 64 débarquent et qu'elles offrent enfin la liberté de composer des longues pistes orchestrales, de mêler des instruments réels et synthétiques. Il y a beaucoup plus de mémoire possible et on peut jouer avec la spécialisation et avec le temps. Il y a évidemment un jeu qui est très emblématique et qui va d'ailleurs changer la donne au sens philosophique du terme, un jeu qui a une très longue histoire. Une histoire d'ailleurs sur laquelle revient l'une de celles qui sera l'une des commissaires de l'exposition à la Philharmonie au printemps prochain, la musique dans Zelda. Évidemment, il y a un jeu qui compte beaucoup, c'est The Legend of Zelda Ocarina of Time en 1998, qui n'est pas seulement une révolution pour le gameplay, la 3D, mais qui change vraiment la manière dont les compositeurs pensent la musique pour le jeu vidéo. Déjà, le jeu en lui-même utilise la musique comme moteur. On a déjà beaucoup parlé dans cette émission de la manière dont certains des thèmes de la légende de Zelda reprennent littéralement du Satie ou du Ravel. D'ailleurs, il a été question à un moment donné d'utiliser le boléro, mais on n'avait pas les droits. C'est une musique qui est à la fois vraiment inspiré par la musique française du début du siècle et qui fondamentalement nous fait passer, voilà, grâce à sa possibilité d'adaptation, d'un calme très contemplatif à une tension dramatique tout en restant extrêmement cohérente. C'est une réaction sonore directe qui va lancer cette longue tradition de la musique dans tous les jeux Zelda, même s'il n'y a pas de thème nécessairement associé à des personnages. Justement, il y a une philosophie musicale qui se développe sur la franchise. On va écouter Hyrule Field, composé par l'immense, l'inénarrable Koji Kondo. Génie de Koji Kondo, cet homme qui avait déjà évidemment beaucoup fait à l'heure du 8-bit dans ce Ocarina of Time. Ocarina, c'est un instrument, je vous le rappelle, qui est un peu une espèce de pierre. Une pierre d'achoppement pour tout ce qui se passe à ce moment-là musicalement. Et ça continue évidemment avec toute une série de jeux qui sortent entre la fin des années 90 et le début des années 2002. Et si, comme de l'autre côté de la régie, vous avez un petit côté Madeleine Proust quand vous écoutez ces musiques, vous vous retrouvez complètement plongé dans l'état dans lequel vous étiez, c'est vraiment parce que cette musique se fait de plus en plus adaptative, on passe du temps avec elle. Et on est de plus en plus libre, en fait, dans la manière non seulement de concevoir les mélodies, mais d'intégrer des sons. C'est ce qui se passe, par exemple, dans le jeu Kingdom Hearts, qui est un mélange assez unique dans l'histoire de roleplay à la japonaise et d'univers Disney, où on incarne Sora, un jeune héros qui voyage de monde en monde pour trouver ses amis. Chaque monde va reprendre des décors Disney, donc ça s'entend dans la musique en fait. Et c'est Yoko Shimomura qui est à la bande son et qui va créer des thèmes à la fois très émotionnels, des rythmes épiques évidemment, mais vous allez l'entendre, il a beaucoup d'influences extrêmement classiques, des influences japonaises, mais aussi très jazzy. Écoutons Dearly Beloved qui est joué au piano et qui, vous allez le voir, nous emmène tout de suite vers un lien très émotionnel finalement avec ce qui se passe dans le jeu, qui convoque aussi d'une certaine manière l'émotionnalité ou la magie du monde Disney et qui crée voilà, cette espèce de fil émotionnel continu.
Mmh.
Oh là là, il y a du Satie, du Debussy dans cette mélodie qui est à la fois douce et lyrique. La très aimée dans la catégorie émotion, douceur et surtout lyrisme. Il y a l'incroyable The Best Is Yet To Come, composé par Rika Muranaka pour le jeu Metal Gear Solid qui va énormément marquer car nous sommes seulement en 1998. La beauté immense de ce thème irlandais chanté par une chanteuse dont je ne prononcerai pas le nom de peur de l'écorcher, ballade intime avec, vous avez entendu hein, dans ces instruments extrêmement folklorisants, quelque chose qui relève évidemment profondément de l'Irlande mais aussi des sensibilités qui peuvent rappeler le shamisen japonais. Le shift, on peut dire, l'espèce de moment de progression, c'est justement sur PlayStation l'arrivée de jeux comme Final Fantasy 8 et 10 qui marquent des vrais tournants parce que les mondes deviennent concrètement beaucoup plus vastes et donc les émotions beaucoup plus intimes. La musique va prendre toute sa place et c'est l'inénarrable Uematsu qui va composer les bandes originales de ces jeux qui vont vraiment rentrer dans l'histoire. Capable de passer évidemment du tout au tout, notamment au plus grand épique une espèce d'action frénétique qui fait évidemment avec les moyens du bord, mais pas uniquement. Il a des influences très épiques, très classiques. Hein. Lui, c'est du Beethoven, du Chopin, du Bach et du Wagner. On entend l'ambition presque guerrière qu'on peut reconnaître chez le compositeur allemand dans ce opening theme. On est presque dans Pirates des Caraïbes, vous en conviendrez. Hein. Les thèmes sont extrêmement cousins. Ça peut d'ailleurs même nous choquer un peu quand on réécoute depuis 2025 cette musique épique d'Onabu Uematsu qui a beaucoup plus de moyens, qui utilise vraiment cet orchestre avec délice, absolument. Voilà, dans un thème Opening Bombing Mission qui peut faire place, et c'est ça toute la magie, à des thèmes beaucoup plus doux, beaucoup plus sucrés, beaucoup plus élégiaques. C'est le cas, par exemple, dans ce morceau. Thank you. grande beauté, l'explosion d'ambition, vous l'avez entendu, dans cet air avec ces jeux qui changent la donne. D'une mélodie plus contemplative, plus immersive, on est vraiment passé à un moment de narration très fort. Les choses ne vont faire que progresser, notamment avec un jeu qui va avoir un gros impact sur l'industrie. Ce jeu s'appelle Silent Hill. C'est le premier jeu d'horreur imaginé pour la PlayStation. Et c'est un jeu imaginé par l'inénarrable game designer Keiichiro Toyama, qui va vraiment créer une espèce de pilier du survival horror en termes de jeu. Et quand il met en place ce jeu Silent Hill, qui d'une certaine manière invite le joueur à se balader dans des rues brumeuses, des bâtiments abandonnés, des couloirs inquiétants, il y a vraiment une sensation, une idée de réalité déformée, de créatures cauchemardesques. On est dans un décor supposément américain, puisque c'est vous incarnez Harry Mason et vous cherchez votre fille adoptive disparue, Cheryl. La notion, évidemment, de peur, de traumatisme, d'inquiétude devait être absolument, fondamentalement présente par la musique. Et c'est un homme important qui va se charger de cette musique. Il s'appelle Akira Yamaoka. On était évidemment dans un moment important de sa vie, puisqu'il va devenir le compositeur de ce jeu. Mais ça n'a pas évidemment roulé tout de suite, comme il le racontait des années plus tard. Il raconte comment il fait des premières propositions à Toyama, qui n'est pas du tout impressionné. Écoutez-le. Quand j'ai commencé à travailler sur Silent Hill avec Toyama, il y avait déjà ce trailer sur lequel on avait travaillé. Et j'avais proposé de faire la musique. J'ai commencé à travailler sur ce trailer. Et quand j'ai fait écouter tout ça à Toyama, il avait vraiment l'air de douter. Je ne sais pas très bien ce qu'il a dit, mais il n'a absolument pas réagi en disant « Waouh, c'est génial !» J'arrive pas à me rappeler exactement des mots qu'il a employés, mais il a dit qu'il y avait quelque chose qui était complètement à côté de la plaque dans ce que j'avais proposé. Moi, j'avais tout fait pour créer quelque chose qui suscite la sensation d'horreur avec une vibe un peu effrayante. Et je me rappelle qu'après cette conversation qui avait eu lieu en fin de journée, j'ai commencé à me poser la question en rentrant chez moi. Mais qu'est-ce qu'il veut exactement? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qui pourrait marcher? C'est là qu'en 30 minutes, j'ai composé ce thème à la mandoline qui a été utilisé dans l'intro de Silent Hill. C'est venu comme ça. Cette histoire m'a fait beaucoup évoluer, je pense. C'était comme si j'étais arrivée avec des idées créatives et qu'elles avaient été poignardées, que je m'étais retrouvée avec des entrailles éclatées partout. C'est ce que cet homme est capable de produire. Je ne dirais pas qu'il m'a sauvé la vie, mais il a sauvé la part créative de moi. D'une certaine manière, c'est la sensation que j'ai eue à l'époque. Et je crois que j'ai encore beaucoup de gratitude à son égard. Je me rappelle encore aujourd'hui de sa réaction, de ce que ça a suscité en moi et de tout ce qu'on peut mettre en place pour être plus ambitieux en termes de son. ce thème à la mandoline qui était finalement complètement à côté de ce que, dans un premier temps, Akira Yamaoka avait imaginé, hein, dans une espèce de caricature du jeu d'horreur. En fait, ce que Toyama voulait, ce qu'il a obtenu finalement, c'est d'abord un ancrage émotionnel dans le jeu avant de rentrer dans concrètement la question de l'horreur. Ce qui frappe vraiment dans Silent Hill, c'est la capacité à créer une peur qui est beaucoup plus psychologique qu'elle n'est picturale en fait. Une ambiance de tension constante, mais qui est activée concrètement par un ancrage, un moteur émotionnel, des espèces de nappes sonores, mais de thèmes aussi, qui vraiment, d'une certaine manière, nous aident à nous identifier aux enjeux du jeu. Il y a notamment ce thème de l'aura, qui est une espèce de balade rock avec du violon, du shamisen, qui est à la fois extrêmement rythmé, mais qui nous fait ressentir la peur, l'urgence, immersion émotionnelle totale. Thème de l'aura composé par Akira Yamaoka en pleine forme, mais qui va aussi évidemment construire énormément de thèmes destinés à nous accompagner dans cette quête, cette exploration de cette ville étrange et inquiétante qui est celle de Silent Hill, remplie de monstres, de mystères où il faut avancer prudemment, chercher des indices, avec une PlayStation qui évidemment limite toujours les sons et les effets. Écoutez ce que Akira Yamaoka racontait justement plusieurs années plus tard, lorsque d'une certaine manière les questions techniques auront presque été évacuées, sur la manière dont il a approché justement la composition de la bande originale de ce jeu à l'époque. Maintenant, le son des jeux vidéo est presque de la même qualité que la musique qu'on écoute sur CD. Mais avant, il n'y avait évidemment absolument pas autant de mémoire. On était très limité en fait sur la capacité d'enregistrement, sur les informations sonores qui étaient gravables. Alors évidemment, c'est toujours un peu vrai aujourd'hui. Mais à l'époque, on était vraiment freiné par cette quantité d'informations qu'on pouvait enregistrer. Donc les choix qu'on faisait étaient toujours soumis à des contraintes. Mais aujourd'hui, ça manque presque. Il fallait faire avec, et c'était le problème principal des créateurs sonores de jeux vidéo. Et pour Silent Hill, j'ai décidé en fait de prendre le problème à l'envers. Puisque j'étais contraint, limité, j'ai utilisé des sons de basse qualité, des sons bruts, qui n'étaient pas très nets, puisque je devais économiser de la mémoire. Et j'ai en fait pris le parti d'adapter la musique à cette contrainte. Je n'ai jamais mis de musique haute définition, alors que c'était possible. J'ai toujours choisi de rester en basse définition. Et tout le long, j'ai utilisé une musique très nostalgique. En fait, des sons qui évoquaient les années 60, 70. Volontairement, c'était un son de moins bonne qualité. Il y avait beaucoup de musique dans les jeux vidéo qu'on utilise quand on arrive dans une ville, par exemple, on entend une musique particulière et chaque lieu a sa musique. Dans la plupart des jeux qu'on crée à la même époque, elle était omniprésente et moi je voulais l'utiliser de façon différente. Il y a plutôt des bruits d'ambiance, des moments de vide, comme par exemple des bruits de machines, des bruits d'usines. J'ai eu recours à ce genre de matière. C'était pas de la musique pure, ça prenait pas beaucoup de mémoire, mais ça créait une ambiance très particulière. Voilà ce que j'ai voulu faire avec Silent Hill. Tous les thèmes composés par Akira Yamaoka sur ce Silent Hill, vous venez d'entendre Promise, une espèce de ritournelle au piano apparemment naïve, mais assez flippante, on peut le dire. Et puis, cette petite respiration qui est Forest, une ambiance, un paysage sonore dans lequel on peut se noyer, rester un peu longtemps. À l'aube des années 2000, le jeu vidéo va devenir vraiment cinématographique, avec la PlayStation 2 qui a peu de vraies nouvelles avancées techniques, mais tout de même, le gameplay change, il y a beaucoup plus d'innovation, et puis on est sur des jeux qui vont de plus en plus nous aider, nous demander finalement de nous mettre en scène. Il y a le fameux Final Fantasy X, Tozan Arcand, toujours composé par notre Nobuo Uematsu, on est en 2001. On veut vous montrer justement la capacité de ces compositeurs à faire autant du massif que du très introspectif. Là, il est question pour le joueur de ressentir l'histoire du monde dans lequel il a pénétré et de ses personnages. 2001, une partition franchement ébouriffante, une œuvre extrêmement aboutie d'un Abou Awamedsou qui n'a jamais caché son admiration pour Chopin. Vous avez entendu à quel point l'enregistrement au piano est d'une qualité nettement supérieure. On est vraiment sur un petit chef-d'œuvre et c'est ce qui fait la marque de ces jeux à la PlayStation 2 qui, autant qu'ils peuvent être intimistes, mélancoliques et complètement bouleversants de profondeur, savent très bien être épiques. Tant de nuances en fait dans ces thèmes épiques. Ici on est dans Shadow of the Colossus, composition de Kōo Ohtani, on est sur The Open Way, on combat des colosses et là on est vraiment sur une orchestration massive, un thème très épique mais qui d'une certaine manière gagne une forme de contemplation, de noblesse qui est censée accentuer la sensation qu'on ressent face à ces fameux colosses. Après cette espèce de défi majestueux, on a aussi des chansons plus épiques mais carrément plus, on va dire, brutales, orchestrales, combat frénétique. C'est le cas dans God of War, avec ce thème assez génial, The Vengeful Spartan, qui sort la même année. The Vengeful Spartan, le Spartiate vengeur. On est vraiment sur une musique de péplum avec presque une forme de d'inspiration orientaliste. Hein. C'est assez fou comme ce qui jouait chez Zanarkand fait écho à des partitions qu'on pouvait entendre dans le studio Ghibli au début des années 2001. Et là, on a presque l'impression d'entendre des tubes de la musique Rai. La grande et la dernière révolution, c'est évidemment la Dreamcast. Elle arrive après la PlayStation et la Nintendo. Elle a une puissance accrue. Le lecteur, c'est un GD-ROM. On peut stocker beaucoup plus de données. Et donc, on peut, du point de vue de la musique, arriver à créer des textures sonores complexes, complètement adaptatives. Parmi les quelques chefs-d'œuvre du genre, il y a, dans le jeu Rez et la composition de Kenichi, ces types d'électro immersives avec des motifs répétitifs, une construction extrêmement progressive qui rend la pratique du jeu complètement hypnotique.
killer. The mind.
L'incroyable Kenichi, DJ assez génial, techno japonaise, qui va beaucoup faire évidemment avec ce jeu Rez, qui compose d'ailleurs pas tellement longtemps après la musique d'ouverture des JO de Nagano. Ça c'est le jeu Rez, on va se quitter avec pour nous l'une des pistes les plus intéressantes, l'un des travaux les plus intéressants. Il se joue sur un jeu qui date de 99, Shenmue. Et ce morceau, Sage Tree, un long moment extrêmement contemplatif, orchestral, qui fait ressentir évidemment l'immense beauté de ce monde ouvert, une notion du détail, une notion du souffle, de sérénité absolument fou, concoctée par Takenobu Mitsuyoshi et Hayato Matsuo. Un crève-cœur de couper l'ampleur, le souffle épique concocté par Mitsuyoshi et Matsuo dans ce jeu. Shenmue, la semaine prochaine, on évoquera l'âge d'or des super compositeurs des univers orchestraux modernes avec l'arrivée de la PS3, de la Xbox. C'est une autre affaire. Pour l'heure, merci beaucoup à Thomas Jost, le réalisateur de cette émission, à la grande Laura Dutèche Pérez, son attaché de production, et au merveilleux Ludovic Auger qui était au platine aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner au podcast de la série musicale pour retrouver l'intégralité de cette série et plus encore.